Ivan Turgenev, scène de la vie rustique, l'auberge de grand chemin. Sur la grande route de B, à peu près à égale distance de deux chefs-lieux de canton, se trouvait, où il n'y a pas encore longtemps, une grande auberge bien connue de tous les postillons, rouliers, commis de marchands, colporteurs et en général des divers et nombreux voyageurs qui l'année durant sillonnent nos voies et nos chemins. Bien peu de personnes passaient sans faire halte devant ce tourne-bride. Seul, parfois, un somptueux carrosse attelé de six beaux chevaux bien nourris continuait majestueusement son chemin, ce qui n'empêchait ni le cocher ni le valet pendu aux sangles de derrière de jeter un regard attendri sur ce seuil qu'il ne connaissait que trop bien. Ou bien quelques pauvres hères dont la bourse de cuir ne contenait pour tout potage que trois lourdes pièces de cuivre se mettaient, quand sa méchante charrette arrivait à la hauteur de la riche hôtellerie, à fouetter son bidet à bout de souffle pour aller, à l'écart du grand chemin, demander son gîte à quelque paysan qui ne pourrait lui offrir que du pain et du foin, mais ne lui ferait pas payer un liard de trop. Outre sa situation avantageuse, l'auberge en question avait, pour retenir les passants, des attraits variés. De l'excellente eau dans deux puits profonds, aux grinçantes, desquels pendaient des seaux retenus par des chaînes de fer, une vaste cour entourée d'une galerie couverte reposant sur de gros piliers, de l'avoine à profusion dans le grenier, une grande salle bien chauffée par un immense poêle russe dont les tuyaux carrelés, larges comme des épaules de paladin, invitaient à s'y étendre, enfin, deux chambrettes assez propres, tendues d'un papier grenat légèrement effrangé et garnies d'un canapé en bois colorié, de quelques chaises assorties et de deux pots de géranium sur les fenêtres, dont les vitres, ternies par une poussière immémoriale, témoignaient d'ailleurs abondamment que le torchon ne les touchait jamais. Et puis la forge et le moulin étaient tout prêts, le débit d'eau-de-vie à une portée de fusil. La cuisinière, une grosse rougeaude, accommodait des mets gras, savoureux, abondants. L'hôte vendait du tabac, à vrai dire mélangé de cendres, mais qui n'en picotait pas moins agréablement le nez des pratiques. Bref, il y avait de bonnes raisons pour que l'auberge fût fort achalandée. Cependant, prétendait-on dans le voisinage, sa prospérité tenait surtout à l'insolent bonheur du patron, qui d'ailleurs ne le méritait guère, mais, comme dit le proverbe, quand on est coiffé. L'aubergiste, qui appartenait à la classe des artisans, se nommait Naum Ivanov. Il avait la taille plutôt courte et épaisse, les épaules larges, la tête grosse et ronde, les cheveux ondulés et grisonnants, bien qu'il accusât 40 ans à peine, le visage plein et frais, le front bas et blanc, de petits yeux d'un bleu clair, le regard en dessous mais impudent, rencontre fort rare. Il tenait la tête toujours penchée, ne la tournait qu'avec peine, ayant sans doute le cou trop court. Il marchait vite en laissant, pour tout geste, balloter ses poings fermés. Quand il souriait, et il souriait souvent, mais sans rire et comme en cachette, ses lèvres rouges s'entr'ouvraient désagréablement sur une rangée de dents fort blanches et fort serrées. Il parlait d'une voix saccadée, revêche. Il se rasait mais s'habillait encore à la russe, portant d'ordinaire un long caftan râpé, une large culotte et des souliers à même ses pieds nus. Il faisait de fréquentes absences pour ses affaires et il en avait de toutes sortes, telles que le maquignonnage, affermage de terrain, culture maraîchère, achat de fruits en gros et autres opérations commerciales. Mais ses absences ne se prolongeaient jamais longtemps. Comme l'épervier auquel il ressemblait par son regard, il revenait promptement au nid. Et ce nid, il s'entendait à le tenir en bon ordre. Il avait l'œil et l'oreille à tout, prenant lui-même les ordres des pratiques, livrant lui-même les denrées nécessaires à leur exécution, veillant lui-même au règlement de compte, sans faire jamais à personne ni tort ni grâce d'un liard. Les voyageurs ne conversaient guère avec notre homme, et lui-même n'aimait pas à perdre le temps en paroles inutiles. « Ben, j'ai besoin de votre argent et vous de mes provisions, » expliquait-il parfois en laissant tomber chaque mot comme un regret. « Nous n'avons pas d'enfants à baptiser ensemble. Quand un voyageur a bien mangé, ses chevaux aussi qui s'en aillent. Et s'il est fatigué, ben, qu'il fasse un somme, même fiche la paix. » Il avait pour domestique des gars solides, mais souples, obéissants et qui le craignaient fort. Très sobre lui-même, il leur donnait à chacun, les jours de grande fête, une pièce de 10 copecs pour boire la goutte. Mais les autres jours, ils n'osaient pas plus boire que leur maître. Les gens de cette espèce font vite fortune, et on lui supposait en avoir de 40 à 50 000 roubles. Mais ce n'est pas par le droit chemin que Naoum Ivanov était arrivé à cette position brillante. Une vingtaine d'années avant l'époque où débute notre récit, il existait déjà une auberge au même endroit de la route. Elle n'avait à vrai dire ni le toit de voliche peint en rouge brique, ni le petit fronton triangulaire à la grecque posé sur de minces piliers tournés qui donnaient au logis de Naoum Ivanov un faux air d'habitation seigneuriale. Le bâtiment, moins ample, n'avait que des murs en lattice et dans la cour un simple auvent de paille. On s'y sentait pourtant à l'aise et au chaud et les voyageurs la fréquentaient volontiers. À cette époque, l'aubergiste était un certain Hakim Semyonov, serf d'une dame du voisinage, Elisabeth Pietrovna Konse, veuve d'un officier. Cet Hakim était un paysan débrouillard et entendu aux affaires, qui, parti dans son jeune âge pour faire le roulage avec 2 méchants chevaux, était revenu au bout d'un an avec un attelage de 3 passables bêtes, et qui, après avoir passé la plus grande partie de son existence sur les grands chemins, visité Kazan et Odessa, Orenbourg et Varsovie, et jusqu'à Lipetsk, entendez Leipzig, avait fini par posséder 2 énormes fourgons attelés chacun de 3 puissants étalons. La vie errante finit-elle par lui peser? Voulut-il se créer une famille nouvelle? Car sa femme était morte pendant l'un de ses voyages et les enfants qu'il en avait eus ne tardèrent pas à la suivre. Nous ne savons pas, mais il se décida brusquement à troquer son métier pour celui d'aubergiste. Avec l'autorisation de sa maîtresse, il acheta au nom de celle-ci 1 ou 2 arpents de terre au bord de la grande route et y bâtit une auberge. L'affaire marcha bien. Ses économies suffisaient au-delà pour couvrir les premiers frais et l'expérience qu'il avait acquise durant ses longues randonnées lui permirent de satisfaire les voyageurs, notamment ses anciens confrères les rouliers, dont il connaissait personnellement un bon nombre. Or, ce sont là les clients préférés de nos aubergistes, car ces gaillards et leurs robustes chevaux consomment tant et plus. Et l'hôtellerie d'Hakim fut bientôt connue à 100 verstes à la ronde. On s'y arrêtait même plus volontiers que plus tard dans celle de Naoum, bien que celle-ci fût mieux tenue. Chez Hakim, tout était à l'ancienne mode. La salle chaude mais plutôt mal propre, l'avoine souvent humide ou trop légère, la cuisine médiocre, parfois même immangeable. Non qu'il fût regardant aux provisions, mais par la faute de la fille de cuisine. En revanche, cet homme affable accordait volontiers et rabais et crédit, prenait plaisir à traiter ses chalands et à bavarder avec eux. Il ne verse pas la langue dans sa poche et l'on ouvrait les oreilles toutes grandes quand, assis devant un samovar, il vous racontait des histoires sans fin sur Peter Granville, sur les steppes du Midi, voire sur les pays d'outre-mer. Et puis il ne refusait jamais de vider un verre, sans jamais s'enivrer, bien sûr, mais comme ça, histoire de tenir compagnie à un galant homme. Les gens de négoce avaient un faible pour lui, et en général, toutes les personnes de la vieille roche, de celles qui ne se mettent jamais en route sans se cindre les reins, qui n'entrent jamais dans une chambre sans faire 3 signes de croix, qui ne vous adresse jamais la parole sans vous souhaiter une bonne santé. L'extérieur d'Hakim prévenait en sa faveur. Grand, plutôt maigre, mais la taille bien prise jusque dans un âge avancé, il avait le visage long, avenant, régulier, le front haut et découvert, le nez droit et fin, les lèvres minces. Le regard de ses yeux bruns à fleur de tête rayonnait d'affabilité. Les quelques cheveux qui lui restaient tombaient en boucle sur sa nuque. Hakim avait fort bien chanté dans sa jeunesse, et bien que sa poitrine se ressentît de tant de longues courses faites en hiver, il n'en conservait pas moins une voix fort agréable et le parler doux. Ses gestes lents, graves, pondérés et d'une courtoisie quelque peu hautaine décelaient l'homme qui a vu le monde et hanté les foires. À côté de toutes ces belles qualités, Hakim, ou plutôt Hakim Semyonovitch, comme on l'appelait respectueusement, même dans la maison seigneuriale où il faisait de fréquentes apparitions, notamment tous les dimanches après la messe, Hakim Semyonovitch donc avait une faiblesse qui a déjà perdu bien des gens en ce bas monde et qui finit par le perdre lui-même. La passion du beau sexe. Son cœur ne savait pas résister à un regard de femme. Il fondait à sa chaleur comme la première neige au moindre rayon de soleil. Et son excessive sensibilité lui avait déjà joué plus d'un tour. Durant la première année qui suivit son établissement sur la grande route, Hakim, absorbé par les soucis inhérents à toute installation nouvelle, n'eut guère le temps de songer à l'amour et, si le grand diable le tourmentait, entre guillemets, il le mettait aussitôt en fuite par des lectures édifiantes. Puis il avait appris à lire dès son premier voyage et tenait les livres saints en profonde vénération, par le chant à mi-voix des psaumes ou par quelque autre exercice de piété. Il avait d'ailleurs atteint sa 46e année, époque de la vie où les passions s'assagissent et où l'on ne songe plus guère au mariage. Hakim commençait lui-même à croire que son grain de folie l'avait quitté pour toujours. Mais il paraît qu'on ne peut pas éviter son sort. La maîtresse d'Hakim, Elisabeth Prokhorovna Kuntse, veuve d'un haut fonctionnaire d'origine allemande, était pour sa part native de Mittau, en Courlande, où elle possédait encore une parenté aussi minable que nombreuse. Du reste, elle s'en occupait fort peu, surtout depuis qu'un sien frère, officier dans la ligne, était venu d'aventure lui rendre ses devoirs, s'était mis dès le second jour à faire un sabbat du diable, la traitant même de « Lampenmamsel », alors que la veille encore, il l'appelait dans son mauvais russe mon très cher sœur et bienfaiteur. Elisabeth Prokhorovna habitait presque constamment sa jolie petite propriété, honnêtement acquise par les soins de monsieur son mari, ancien architecte. Elle la gérait elle-même et fort bien. Elle savait tirer parti de tout et ne laissait jamais échapper le moindre gain. Et cela, comme en son art de ne dépenser que 2 liards pour un sou, se trahissait son origine allemande. En tout le reste, elle était parfaitement russifiée. Elle aimait avoir autour d'elle de nombreux domestiques, des filles surtout, qui d'ailleurs ne mangeaient pas leur pain sans le gagner. Du matin au soir, des besognes diverses courbaient leur pauvre échine. Elle aimait à sortir dans un grand carrosse avec des valets en livrée par derrière. Elle aimait qu'on lui fît des rapports et des cancans, et sur ce dernier point, elle n'était d'ailleurs jamais en reste. Elle aimait à combler de faveurs un de ses gens pour bientôt le frapper d'une disgrâce tout aussi inopinée. Bref, elle ne différait en rien des dames russes de son rang. Elle avait beaucoup de bienveillance pour Hakim, qui lui payait ponctuellement une redevance fort rondelette. Elle s'entretenait avec lui sur un ton très affable et quelquefois en plaisantant, l'invitait à lui faire visite. Et c'est précisément dans la maison de sa maîtresse que le malheur attendait Hakim. Parmi les chambrières d'Elisabeth Prochorovna se trouvait une certaine Dunyasha, orpheline de 18 à 20 ans, gentille, accorte et délurée. Avec des traits irréguliers, elle avait pourtant ce qu'il fallait pour plaire. La peau fraîche, une opulente chevelure blonde, des yeux sémillants, un jeune nez assez rond, des joues merveilleuses et surtout un petit air dégagé, narquois, provoquant. En outre, elle faisait volontiers la renchérie, car elle pouvait fournir ses quartiers de noblesse domestique. Feu son père, Arefi, avait été 30 années durant majordome, et son grand-père Stéphane, valet de chambre d'un prince, grand seigneur et sergent aux gardes. Toujours bien attifée, Dunyasha soignait particulièrement ses mains, qu'elle avait fort belles. Elle montrait le plus grand dédain pour tous ses adorateurs, ne répondant à leurs compliments que par des sourires pincés ou par des exclamations dans le genre de « Oui, c'est cela, comptez-y !» 3 années d'apprentissage à Moscou avaient fait d'elle une bonne couturière, tout en lui donnant ces façons minaudières qu'affectent les femmes de chambre qui ont séjourné dans les capitales. « Oh, cette fille-là a son amour-propre !» disaient d'elle ses compagnes. Et c'était dans leur bouche la plus belle des louanges. Elle a certes mangé plus d'un pain, mais sans jamais s'en laisser compter. Si malgré tout cela, Dunyasha n'était pas dans les petits papiers de sa maîtresse, la faute en incombait aux intrigues de la première camériste, Kirillovna, personne d'un certain âge, qui avait pris un grand ascendant sur Elisabeth Prochorovna et s'entendait admirablement à écarter toutes ses rivales. Et ce fut de cette soubrette qu'Akim s'avisa de tomber amoureux, et amoureux comme il ne l'avait jamais encore été, d'aucune femme. Il l'aperçut tout d'abord à l'église, comme la belle revenait de Moscou. Il la rencontra ensuite plusieurs fois dans la maison seigneuriale et passa même une soirée entière chez l'intendant qu'il avait convié à prendre le thé en compagnie des notables de l'antichambre. Hakim n'appartenait pas à leur classe et portait une barbe de paysan. Mais c'était un homme bien éduqué qui savait lire et avait de quoi. De plus, il ne s'habillait pas à la villageoise, mais arborait un long cafetan de drap noir, des bottes en cuir souple et un foulard autour du cou. D'aucuns avaient beau chuchoter par derrière que les façons du brave homme décelaient malgré tout le rusto, il ne lui en témoignait pas moins une déférence voisine de la flatterie. Au cours de cette soirée, Dunyasha acheva de subjuguer le faible cœur d'Hakim, bien qu'il eût opposé un froid silence à tous ses compliments et jeté sur lui des regards qui semblaient surpris de voir en ce lieu pareil manant. Ces beaux dédains ne firent qu'enflammer davantage Hakim, qui rentra chez lui en proie à de profondes méditations et décida finalement d'obtenir coûte que coûte la main de la donzelle. Aussi, comment décrire le dépit, la colère de Dunyasha quand 5 jours plus tard, Kirillovna, que notre homme avait su mettre dans ses intérêts, l'ayant appelée avec câlinerie dans sa chambre, l'informa que cet Hakim, ce paysan barbu auprès duquel elle avait rougi de se trouver assise, la demandait en mariage. Dunyasha rougit d'abord d'indignation, puis partit d'un éclat de rire forcé, puis se mit à pleurer à chaudes larmes. Mais Kirillovna, même si mena si adroitement son attaque, lui dépeignit si éloquemment, d'une part, sa position précaire dans la maison, et de l'autre, la bonne mine, la richesse, l'aveugle complaisance d'Hakim, lui laissa si clairement entendre les intentions de sa maîtresse, que Dunyasha sortit de la chambre toute pensive et, rencontrant son prétendant, le regarda cette fois droit dans les yeux. Les beaux cadeaux que lui fit cet homme généreux dissipèrent ses dernières hésitations. Elisabeth Prochorovna, à qui, dans la joie de son cœur, Hakim avait présenté 100 de pêches sur un plateau d'argent, daigna donner son consentement et le mariage se fit. La veille de la noce, la fiancée enterra lugubrement sa vie de jeune fille. Le matin même, elle larmoyait encore pendant que Kirillovna l'habillait, mais bientôt elle se consola. Sa maîtresse lui avait prêté pour aller à l'église son propre châle, et le jour même, son mari, qui ne reculait devant aucune dépense, lui offrit un châle tout pareil et peut-être plus riche encore. Ainsi donc, Hakim se maria et emmena chez lui sa jeune épousée. Et il dut bientôt se convaincre que Dushyasha, médiocre ménagère, ne pouvait guère le seconder. Toujours morose, toujours chagrine, elle ne se déridait que les jours où quelque officier de passage lui comptait fleurette à l'abri d'un samovar pansu. Elle ne s'occupait de rien et s'absentait fort souvent, pour faire soit des achats, soit des visites au château distant d'une petite lieue. Là, elle se sentait plus à l'aise. Ses anciennes compagnes lui enviaient ses robes. Kirillovna lui offrait du thé et Elisabeth Prochorovna daignait s'entretenir avec elle. Cependant, elle y connaissait aussi certaines mortifications. En tant que femme d'aubergiste, par exemple, elle devait, au lieu de chapeau, se contenter d'un fichu, comme une marchande, lui disait l'astucieuse Kirillovna, comme une manante, se disait-elle à elle-même. Plus d'une fois revinrent à la mémoire d'Hakim les paroles du seul parent qui lui resta, un vieux trait de misère d'oncle, célibataire endurci. « Eh bien, mon petit gars !» lui avait dit le bonhomme, comme il le rencontrait quelques jours avant son mariage. « Parlez comme ça que tu vas prendre femme ?»« Mais oui, après. « Ah, Hakim, Hakim, c'est bien vrai que tu es plus notre égal à nous autres paysans. Mais non plus, n'est pas ton égal. Et en quoi donc, s'il te plaît? Mais en ceci, par exemple, riposta le vieux en montrant la barbe d'Hakim, que pour plaire à sa fiancée, celui-ci avait été courté avec des ciseaux, se refusant à la raser complètement. Hakim se rembrunit et le bonhomme, ramenant devant lui les pans de sa vieille peau de mouton déchirée aux épaules, le quitta en hochant la tête. Oui, plus d'une fois, Hakim rêva à ces paroles. Mais il avait beau geindre et soupirer, son amour pour sa jolie femme n'en diminuait pas pour autant. Il était fier d'elle, surtout quand il la comparait, ou je ne dirais pas au simple paysanne ou à sa première femme, qu'on lui avait fait épouser à 16 ans, mais même aux autres servantes du château. « Quel gentil petit oiseau, j'ai pris dans mes raies !» se disait-il complaisamment en contemplant la mignonne. Et lui faisait-elle la moindre caresse ?« Elle s'habituera » déclarait-il aussitôt au comble du bonheur. Elle se conduisait d'ailleurs fort bien, et personne ne pouvait porter contre elle un mauvais témoignage. Ainsi se passèrent plusieurs années. Dunyasha finit par s'accommoder de sa nouvelle existence, surtout quand elle vit que celle de ses anciennes camarades, qui n'avaient pas épousé des paysans, étaient toutes tombées en de mauvaises mains. Elle tirait le diable par la queue ou supportait les pires traitements. Et au contraire, plus Hakim vieillissait, plus il s'attachait à elle, plus il lui accordait sa confiance. Par ailleurs, il s'enrichissait de jour en jour, tout lui réussissait. Dieu ne lui avait refusé que des enfants. Dunyasha venait d'avoir 25 ans. Tout le monde maintenant l'appelait cérémonieusement Avdotia Arefievna. Sans être devenue une vraie ménagère, elle avait pris sa maison en affection, s'occupait des provisions, surveillait les servantes, tout cela plus ou moins bien d'ailleurs, et sans trop veiller au bon ordre, à la propreté. En revanche, son portrait à l'huile, peint par un artiste du cru, le fils du sacriste, était suspendu dans la grande salle à côté de celui d'Hakim. Elle y était représentée en robe blanche, avec un châle jaune et six rangées de grosses perles autour du cou, de grandes pendeloques aux oreilles et des bagues à chaque doigt. On pouvait, à la rigueur, la reconnaître, bien que le peintre l'eût faite trop grasse et trop rouge et qu'au lieu de ses yeux gris, il en eût donné de noir et qui louchait légèrement. Le portrait d'Hakim, au contraire, conçu dans la manière sombre à la Rembrandt, était si complètement manqué que les voyageurs qui jetaient un coup d'œil reculaient en grommelant. Du reste, Avdotia commençait à négliger les soins de sa toilette, se contentant de jeter un grand châle sur la première robe venue. Elle se laissait aller à cette paresse somnolente et géniarde à laquelle tout russe ne se montre que trop enclin, surtout quand son existence est assurée. Malgré tout cela, les affaires des époux marchaient bien. Ils vivaient en bonne intelligence, on les citait en exemple. Mais, comme l'écureuil qui se gratte le nez au moment où le chasseur le met en joue, l'homme ne pressent jamais son malheur, et la glace se rompt sous ses pas au moment où il s'y attend le moins. Un soir d'automne descendit à l'auberge d'Hakim un de ces marchands de nouveautés que nos hobereaux, et plus encore leurs femmes et leurs filles, attendent parfois avec la plus grande impatience. Avec deux fourgons bien chargés, il se rendait de Moscou à Kiev par le plus long. Ce colporteur était accompagné de deux commis, l'un pâle, sec et bossu, l'autre jeune et beau garçon d'une vingtaine d'années. Ils soupèrent, puis demandèrent du thé. Le marchand invita ses hôtes à prendre une tasse avec lui. Ils ne se firent pas prier, et bientôt une conversation soutenue s'établit entre les deux barbons. Hakim venait d'avoir 56 ans. Le mercier se renseignait sur les gentilshommes du voisinage, et personne mieux qu'Hakim ne voulait le satisfaire. Le commis bossu sortait à chaque instant pour donner un coup d'œil aux voitures, et il ne tarda pas à s'aller coucher. Avdotia dut entretenir son camarade. Assise auprès de lui, elle parlait peu, mais les discours de l'étranger ne semblaient pas lui déplaire, car son visage s'était animé, une rougeur subite avait coloré ses joues, elle riait souvent et avec abandon. Le jeune commis se tenait immobile, penché sur la table que frôlaient presque ses cheveux bouclés. Il parlait doucement, sans élever ni presser la voix, mais ses petits yeux d'un bleu clair et d'une expression hardie couvaient sans cesse Avdotia, qui chercha d'abord à éviter ce regard, puis finit par y répondre. Le visage de ce jeune gars était frais et lisse comme une pomme de Crimée. Il souriait à chaque instant et jouait avec ses doigts blancs sur son menton, déjà couvert d'un léger duvet brun. Bien que son langage sentît le courtois de boutique, il s'exprimait avec une façon de désinvolte et tout en parlant, ne cessait de tenir sur elle son regard fixe et effronté. Tout à coup, il se rapprocha de sa voisine et, sans le moindre changement sur son visage, il lui dit « Avdotia Refievna, il n'y a pas mieux que vous au monde et je donnerais volontiers ma vie pour vous. » Avdotia partit d'un grand éclat de rire. « Mais qu'est-ce qui te prend ?» demanda Hakim. « Il me raconte des choses si drôles !» répondit-elle sans grande confusion. Le vieux marchand rit dans sa barbe. « Oui, mon homme est un farceur, mais vous avisez pas de l'écouter. » « Oh, sûr que non, il ne manquerait plus que ça, » répliqua-t-elle en secouant la tête. « Eh bien sûr, » approuva le bonhomme. « Mais en attendant, » reprit-il sur ce ton de cantilène, cher aux personnes de sa condition, « faites excuse, brave genre. » Tout le remerciement, mais il faudrait voir à se mettre sur le flanc. » Et il se leva. Hakim l'imita. « Vous êtes bien honnête, » répondit-il sur le même ton. « Nous aussi, on est contents de votre politesse, s'entend. Mais puisque le cœur vous en dit, allez, bonsoir et bonne nuit. Avdotia, ma chère, lève-toi. » Avdotia se leva comme à contre-cœur. Naoum en fit autant et tous se séparèrent. Les hôtes gagnèrent le réduit qui leur servait de chambre à coucher. Hakim ne tarda pas à ronfler, mais Avdotia n'arrivait pas à s'endormir. Elle resta quelque temps immobile, le visage tourné contre le mur. Puis elle s'agita sur sa couche brûlante, rejetant et ramenant tour à tour sa couverture. Et à peine commençait-elle à s'assoupir, qu'une mâle voix d'homme s'éleva dans la cour. Il chantait d'une chanson d'un rythme lent, mais point mélancolique, dont on ne pouvait pas saisir les paroles. Avdotia ouvrit les yeux, s'appuya sur son coude, et se prit à écouter. Dans l'air froid de la nuit d'automne, la chanson montait, vibrante et sonore. Hakim souleva la tête. « Qu'est-ce qui chante ? » demanda-t-il. « Oh, je ne sais pas, » répondit sa femme. « Il chante bien, » reprit-il après un court silence. « Ma foi, oui, pour une belle voix, c'est une belle voix, il n'y a pas à dire. Moi aussi, on avait une belle dans mon temps, mais elle s'est grattée. Ça va être ce gars, ce Naoum, oh, je crois qu'on l'appelle. » Il se tourna sur l'autre flanc, poussa un soupir et se rendormit. Longtemps encore, la voix se fit entendre, puis soudain elle parut se briser, jeta une dernière note de bravoure et s'éteignit lentement. Avdotia fit le signe de la croix et posa sa tête sur l'oreiller. Au bout d'une demi-heure, elle se souleva et commença à glisser du lit. « Où vas-tu, femme ?» demanda Hakim à travers son sommeil. Elle s'arrêta, court. « Boucher la veilleuse, » répondit-elle. « Je pense que j'ai, je peux pas dormir. »« Fais donc une prière, » murmura-t-il en se rendormant. Avdotia vint à la veilleuse et s'y prit si gauchement qu'elle l'éteignit. Elle se recoucha aussitôt et tout rentra dans le silence. Le lendemain matin, de bonne heure, le marchand se remit en route avec ses deux commis. Avdotia dormait encore. Hakim, qui avait une course à faire au moulin, leur fit un bout de conduite. En rentrant, il trouva sa femme déjà habillée. Elle n'était pas seule. Le jeune gars de la veille s'entretenait avec elle auprès d'une fenêtre. À la vue d'Hakim, Avdotia se retira sans souffler mot. Oui, Naoum lui dit qu'il était venu rechercher des moufles que son patron avait soi-disant oubliées sur un banc de la salle commune et s'éloigna sans plus tarder. Nous dirons à présent au lecteur ce dont il se doute. Avdotia s'était éperdument éprise de Naoum. La soudaineté de cette passion paraît d'autant plus inexplicable que jusqu'alors, en dépit de nombreuses occasions de mal faire, la jeune femme n'avait porté aucune atteinte à la fidélité conjugale. Et plus tard, quand sa liaison avec Naoum devint notoire, le bruit se répandit que dès le premier soir, le galant lui avait jeté un filtre dans son thé. Oui, chez nous, on croit fermement encore à la vertu des filtres. Et les bonnes gens prétendaient en avoir remarqué l'effet sur Avdotia, qui, à les entendre, commença peu à perdre et sa gaieté et son embonpoint. Quoi qu'il en fût, depuis lors, on vit assez souvent Naoum allant dans l'auberge d'Hakim. La première fois, il revint avec le même patron. 3 mois plus tard, il reparut seul avec les marchandises à lui. L'on sut bientôt qu'il s'était établi dans une petite ville, l'un des chefs-lieux du district voisin, et depuis lors, il ne se passa point 2 semaines que l'on aperçut sur la grande route sa solide charrette peinturlurée, attelée de 2 vigoureux petits chevaux qu'il conduisait lui-même. Entre Hakim et lui, ne s'établit ni amitié ni inimitié. Tout en le considérant comme un garçon avisé et qui ferait son chemin, l'aubergiste faisait grande attention à Naoum. Il ne soupçonnait nullement les sentiments que lui portait Avdotia, en qui il continuait à avoir la plus grande confiance. Ainsi s'écoulèrent encore 2 années.
Un beau jour d'été, vers 1 heure de l'après-midi, Elisabeth Prochorovna, qui pendant ces 2 années était devenue jaune et ridée en dépit de tous les fards et cosmétiques imaginables, se promenait avec son caniche et son ombrelle dans son jardin, taillé et ratissé à l'allemande. En faisant bruire sa jupe empesée, elle marchait d'un petit pas le long d'une allée sablée, entre 2 rangées de dahlias qui semblaient lui présenter les armes, quand elle fut rejointe par notre vieille connaissance, Kirillovna, laquelle l'informa respectueusement qu'un marchand de baie désirait l'entretenir d'une affaire très importante. Kirillovna continuait à jouir des bonnes grâces de sa maîtresse. En réalité, c'était elle qui gérait le domaine, et depuis quelque temps, elle avait reçu l'autorisation de porter un bonnet blanc, ce qui donnait plus d'énergie aux traits un peu grêles de son visage basané. « Un marchand ?» demanda la dame. « Que veut-il ?»« Oh, je ne sais trop, » répondit Kirillovna de sa voix flûtée. « Il me semble que ce monsieur a l'intention de vous acheter quelque chose. » Elisabeth Prochorovna regagna son salon, s'assit sur son siège préféré, un fauteuil à baldaquin, autour duquel s'enroulait élégamment un lierre, et fit introduire le marchand de baies. Ce fut Naoum qui entra. Il salua et s'arrêta près de la porte. « Ah, je viens d'apprendre que vous désirez m'acheter quelque chose, » dit Madame Kuntze tout en songeant. « Quel bel homme que ce marchand !»«
Tout juste, » répondit Naoum.
« Et quoi donc ?
Vous ne voudriez pas vendre votre auberge ?»«
Mais quelle auberge ?
Mais celle qui est sur la grande route, pas loin d'ici. »
Ah, l'auberge d'Hakim, ah, mais ne m'appartient pas.
Comment cela, elle est bâtie sur votre terrain?
Oui, admettons que le terrain soit à moi. Il a été acheté à mon nom, mais les bâtiments appartiennent à Hakim.
J'entends, alors comme ça, ne voudriez-vous pas nous la vendre?
Mais comment puis-je la vendre puisqu'elle n'est pas à moi?
Bon, j'entends, mais nous y aurions mis un bon prix.
C'est très étrange ce que vous me dites là, reprit Madame Kuntze après un moment de silence. Et qu'auriez-vous donné? Ce n'est pas pour moi que je vous pose cette question, mais pour Hakim.
Ben, avec toutes les constructions et dépendances, sans oublier le terrain, bien entendu, nous serions allés jusqu'à 2 000 roubles.
Oh, 2 000 roubles, c'est bien peu.
Ben, c'est le juste prix.
Mais en avez-vous parlé à Hakim?
À quoi bon? L'auberge est à vous, c'est à vous que nous nous adressons.
Mais je viens de vous expliquer. C'est curieux que vous ne veuillez pas me comprendre.
Si fait, nous nous comprenons très bien. Elisabeth Prochorovna regarda Naoum, qui à son tour regarda Elisabeth Prochorovna. Eh bien, poursuivit-il, quelle serait de votre côté la prétention?
De mon côté, répondit Madame Kuntze en s'agitant sur son fauteuil. Premièrement, je vous ai dit que 2 000 roubles c'était trop peu, et puis
nous ajouterions volontiers un billet de 100 roubles.
Madame Kuntze se leva.
Vous parlez tout à fait hors de propos, dit-elle. Je vous ai déjà dit que je ne veux pas vendre cette auberge et je ne la vendrai pas. Non, je ne puis pas. C'est-à-dire que je ne veux pas.
Naoum sourit et attendit quelques instants.
« Allons, c'est comme vous voudrez, » fit-il enfin, haussant légèrement les épaules. « Nos excuses pour le dérangement. »
Il s'inclina et mettait déjà la main au bouton de la porte quand Madame Kuntze le retint.
« Cependant, » dit-elle avec un peu d'hésitation, « ne partez pas encore. »
Elle sonna, Kirillovna parut.
Kirillovna, prescrivit Madame Kuntze, fais donner du thé à monsieur le marchand. Je vous reverrai, ajouta-t-elle en lui faisant un léger salut.
Naoum s'inclina encore une fois et sortit avec la femme de charge. Elisabeth Prochorovna fit 2 ou 3 tours dans le salon et sonna de nouveau. Cette fois-ci, ce fut le petit cosaque qui entra. Elle lui dit d'appeler Kirillovna. Celle-ci vint bientôt, en faisant discrètement crier ses bottines neuves en chevreau.
« As-tu entendu ce qu'est venu me proposer ce marchand ?» demanda Kuntze avec un rire forcé. « Quel drôle de pistolet !»« Non, j'ai rien entendu, de quoi s'agit-il ?»
Et Kirillovna cligna ses petits yeux noirs fendus à la kalmouk.
« Bien, il veut m'acheter l'auberge d'Hakim. »«
Eh bien... »
« Elle n'est pas à moi, cette auberge. Et Hakim, que dira-t-il ? » ?»«
Oh, madame, mais que daignez-vous dire ? Est-ce que nous ne sommes pas tout à vous, nous et tout le bien que nous pouvons avoir ? » ?»«
Y penses-tu, Kirillovna ?
s'écria Madame Kuntze en se mouchant d'un geste nerveux dans son mouchoir de batiste. « À qui m'a-t-il terrain et bâtit l'auberge de son propre argent ?»« Et d'où l'a-t-il pris, s'il vous plaît, cet argent ?»« C'est grâce à votre condescendance qu'il l'a gagné. » Et vous croyez qu'après cela, il ne lui restera plus d'argent, mais il est plus riche que vous, ma parole. Oui, bien sûr, mais pourtant vendre comme ça. Et pourquoi ne pas vendre, puisqu'il se présente un acheteur? Permettez-moi de vous demander combien on vous propose. 2 000 roubles, et même davantage, dit à voix basse Madame Kuntze. « Oh, il donnera davantage, madame, s'il offre 2 000 du premier mot. Et pour ce qui est d'Hakim, vous vous arrangerez. Vous pourrez lui diminuer sa redevance, il vous en aura encore de la reconnaissance, soyez-en sûr. »« Oui, certainement, il faudra la lui diminuer, mais... »« Oh, mais donc, Kirillovna, voyons, c'est impossible. »
Et Elisabeth Prochorovna se mit à marcher avec agitation dans la pièce.
« Non, 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 c'est impossible, » répéta-t-elle. « Non, ne m'en parle plus, ou je me fâcherai. »
Kirillovna se garda bien d'obéir. Au bout d'une demi-heure, elle retournait chercher Naoum, qu'elle avait laissé dans l'office, attablé devant un samovar. « Qu'avez-vous à me dire, ma révérende ?» demanda Naoum en retournant d'un geste farouche sa tasse sur la soucoupe.
« J'ai à vous dire qu'il faut retourner chez notre dame, elle vous demande. »
« On y va !» répondit Naoum. Il suivit aussitôt Kirillovna dans le salon. La porte se referma sur eux. Quand elle se rouvrit et que Naoum sortit en tirant sa révérence, à reculons, l'affaire était conclue. L'auberge d'Hakim lui appartenait. Il l'avait achetée pour 2 800 roubles. On était convenu de passer au plus tôt le contrat et de garder le silence jusqu'au moment opportun. Elisabeth Prochorovna reçut 100 roubles d'art et Kirillovna 200 de pots de vin. « C'est pas payé cher, » se disait Naoum en grimpant dans sa charrette. « Une occasion pareille, on la laisse pas échapper. » À l'instant même où se concluait cette affaire, Hakim, assis dans la salle près d'une fenêtre, se caressait la barbe d'une main nerveuse. Il paraissait mécontent. Nous avons dit qu'il ne suspectait point la fidélité de sa femme, de bonnes âmes ayant en vain tenté de lui ouvrir les yeux. Certes, depuis quelque temps, Avdotia se montrait plus rétive, mais, se disait-il, le sexe féminin est d'humeur fantasque et difficile à mener. À vrai dire, il sentait parfois sourdre au tréfonds de son être une pensée importune. N'y aurait-il point quelque anguille sous roche? Mais il la chassait aussitôt, soucieux avant tout de sa quiétude, l'âge ayant apporté à sa bonhomie naturelle le renfort de l'insouciance. Mais ce jour-là, il était vraiment de mauvaise humeur. La veille, il avait entendu par hasard dans la rue une conversation entre une ouvrière à son service et une de leurs voisines. La paysanne demandait à l'ouvrière pourquoi elle n'était pas venue passer avec elle la soirée du dimanche. « Je t'ai attendu tout le temps, » disait-elle. « Ben, j'étais bien parti pour y aller, » répondit l'autre. « Mais v'là-t-il pas que pour mes péchés, je suis allé buter juste dans la patronne, que le bon Dieu la bénisse. »« C'est-il Dieu possible ?» chantonna la bonne femme en s'appuyant la joue dans la main. « Et où c'est-il, ma fille, que t'as buté contre elle ?»« Eh ben, mais derrière la chaudière, au curé... » Elle était allée rejoindre son bon ami, le Naoum, c'est bien comme ça qu'il s'appelle, hein, oui. Alors ils étaient là, cachés dans l'ombre, et moi je les voyais point, rapport au clair de lune, faut croire. Alors comme ça, je suis allé en plein buté dedans. « C'est idiot possible !» répéta l'autre. « Et dis-moi, ma fille, qu'est-ce qu'ils pouvaient bien faire comme ça ensemble ?» Rien du tout, j'étais là se reluquer, alors, n'est-ce pas, quand elle m'a reconnu. Où cours-tu comme ça, qu'elle m'a dit, veux-tu bien te rentrer? Alors, moi, bien sûr, je suis rentré. En voilà une histoire. Eh ben, je m'en vais, ma fille. Ben, du plaisir, déclara la bonne femme au bout d'un moment.
et elle continua son chemin. Cette conversation avait fait sur Hakim une pénible impression. Bien qu'il n'éprouvât plus pour sa femme les mêmes sentiments qu'autrefois, il se refusait à croire aux paroles de l'ouvrière. Elle avait pourtant dit vrai. Ce soir-là, en effet, Avdotia était allée trouver Nahum, qui l'attendait dans l'ombre épaisse que projetait sur la route l'immobile muraille de la Chenevière. Baigné par une abondante rosée, le chanvre répandait alentour une odeur enivrante. La lune venait de se lever, large et d'un rouge pourpre dans une brume noirâtre. Nahum entendit de loin les pas précipités d'Avdotia et se dirigea à sa rencontre. Elle s'approcha de lui, blême et haletante. La lune éclairait en plein son visage. « Eh bien, tu l'as apporté ? » demanda-t-il.
« Bien sûr, répondit-elle d'une voix hésitante. Seulement, voyez-vous, Nahum Ivanitch. »
Il ne la laissa pas achever. « Elle donne toujours. » Elle tira de dessous son fichu une sorte de rouleau. Nahum s'en empara aussitôt et le foua sous sa chemise.
« Ah, Nahum Ivanitch,
proféra-t-elle lentement et sans le quitter du regard,
« je perds mon âme pour toi. »
Et ce fut à ce moment qu'ils virent venir l'ouvrière. Voilà pourquoi Hakim, assis sur son banc, se passait d'un air morose la main sur la barbe. Avdotia ne faisait qu'aller venir. Il la suivait des yeux. Au moment où, après avoir pris un mantelet dans sa chambre, elle se disposait à sortir une fois de plus, il ne put se contenir davantage et dit à haute voix, comme s'il se fût parlé à lui-même, « Mais qu'est-ce que les femmes peuvent bien avoir à se démener continuellement? Faudrait pas leur demander de rester un instant en place. Mais courir à toute heure de la journée, courir le matin et plus encore le soir, ça, oh, c'est plus dans leurs moyens. » Avdotia entendit sans bouger la diatribe de son mari. Seulement au mot « soir », elle fit un mouvement involontaire de la tête et parut se troubler. Enfin, quand il eut fini,
« Eh, Semyonitch, dit-elle avec dépit, « oh, quand tu te mets à faire des phrases, il n'y a plus qu'à... »
Et sans achever, elle sortit en faisant claquer la porte. L'éloquence d'Hakim n'était pas en effet du goût de sa moitié. Quand le soir il évoquait ses souvenirs ou balivernait avec ses pratiques, elle bâillait ou se retirait. « Mais des phrases !» répéta Hakim en considérant la porte fermée. « Mais j'aurais dû en faire davantage avec toi, ma belle. Et avec qui court-elle encore? Avec un gars qui n'est pas plus huppé que moi. » Sur ce, il se leva et se donna un grand coup de poing dans la nuque. Plusieurs jours se passèrent d'une façon plutôt singulière. Hakim regardait toujours sa femme, comme s'il eût été prêt à lui dire quelque chose. Tous deux observaient un silence contraint que rompait d'ordinaire le mari par quelques remarques chagrines sur la mauvaise tenue du ménage ou sur le compte des femmes en général. Avdotia ne les relevait presque jamais. Cependant, malgré toute la faiblesse de caractère d'Hakim, les époux en seraient certainement venus à un éclat si une visite soudaine n'avait rendu tout éclaircissement superflu. On était au cœur de l'été, et les travaux des champs retenaient les pratiques loin de l'auberge. Un beau jour, vers midi, Hakim et sa femme allaient se mettre à table, quand tout à coup le tintamarre d'une charrette rondement menée retentit sur la route et vint mourir au portail. Hakim jeta un coup d'œil par la fenêtre et se rembrunit en voyant Nahum descendre tout doucettement de la voiture. Avdotia ne se doutait de rien, mais quand elle reconnut la voix du galant, qui déjà dans le vestibule ordonnait à un garçon de conduire son cheval à l'écurie, elle sentit sa cuillère lui trembler dans la main. Enfin la porte s'ouvrit et Nahum fit son entrée. « Bonjour la compagnie, » dit-il en ôtant sa casquette. « Bonjour, » laissa tomber Hakim entre ses dents. « D'où viens-tu comme ça ?»«
Oh, pas bien loin, » répondit l'autre en s'asseyant sur un banc. « Je viens de chez votre dame.
De chez Notre-Dame, répéta Hakim, toujours sans bouger de place. T'avais donc affaire avec elle?
Comme de bien entendu. Tout le respect, Avdotya Arefievna.
Bien le bonjour, Naomi Vanitch.
Un silence suivit.
C'est de la soupe que vous avez là? Reprit enfin Naoum.
Oui, de la soupe, mais pas pour ton museau,
riposta soudain Hakim en pâlissant.
Naoum, interloqué, ouvrit de grands yeux.
Tu dis?
Mais pas pour ton museau que je dis, s'écria Hakim, les yeux étincelants, en frappant la table du plat de la main.
Mais qu'est-ce qui te prend, Semyonitch?
Oh, j'ai assez de toi, Naoum Ivanitch. Voilà tout, puisque tu veux le savoir. On te voit trop souvent dans le pays, mon gars, voilà ce que j'ai.
Le vieillard se leva tout tremblant. Naoum fit de même.
T'aurais pas reçu un coup de marteau par hasard, fit-il avec un sourire ironique.
Avdovsia, Jefna, qu'est-ce qui lui arrive?
T'occupe pas d'Avdovsia, Rivia, hurla Hakim, haletant de fureur. Allez, il s'agit de décamper, t'entends, au plus vite que ça.
Qu'est-ce que tu dis? Demanda Naoum sur un trot gros de menace.
Je te dis de foutre le camp, mon gars, sans sagar.
Naoum fit un pas en avant.
Oh, vous n'allez pas vous battre, au moins,
balbutia Avdotia, qui jusqu'alors était demeuré comme pétrifié. Naoum lui jeta un regard.
Vous tourmentez point, Avdotia Raifievna. On va régler ça en douce.
T'as pas fini de brailler, poursuivit-il en se tournant vers Hakim.
Tu vas un peu vite, le vieux, on chasse pas comme ça les gens de chez eux.
Comment de chez eux? Marmonna Hakim interdit.
C'est-il que tu sois le maître ici par hasard?
Ah oui, ça m'en a tout l'air. Demanda Oum de cligner des yeux et de montrer ses dents blanches.
Mais je croyais plutôt que c'était moi. Attends, t'en as une caboche. Puisque je te dis que c'est moi le patron à cette heure.
Hakim écarquilla les yeux.
Mais qu'est-ce que tu me chantes là? Proféra-t-il au bout d'un moment. Tu dois avoir une araignée dans le plafond.
Je suis bien bon de discuter avec toi, s'écria Naoum impatienté.
Vois-tu cela?
Continua-t-il en tirant de sa poche un papier timbré plié en quatre.
C'est un contrat de vente, comprends-tu? La vente de ton terrain et de ton auberge.
Oui, je les ai achetés à leur légitime propriétaire, Elisabeth Rojolovna.
On a signé le contrat hier à B. Conséquemment, c'est plus toi le patron ici, c'est moi. Allez, ramasse tes frusques, conclut-il en remettant le papier dans sa poche, et dès demain, les débarrasse le plancher. Compris, n'est-ce pas?
Hakim semblait frappé de la foudre.
Oh, le bandit, gémit-il enfin, le brigand. Hola, faites cas, mitka, femme, jetez-vous dessus, saisissez-le, tenez-le bien.
Il avait complètement perdu la tête.
Du calme, le vieux, pas de bêtises, hein?
Proféra Naoum sur un ton de menace.
Mets-la donc dessus, femme, tape donc dessus, cria Hakim d'une voix pleurnicharde en faisant de vains efforts pour s'arracher de sa place. Oh, le bandit, le scélérat, c'est pas assez d'elle, tu vas encore me prendre ma maison et tout. Mais non, attends, c'est impossible. Je vais aller m'expliquer avec elle, on peut pas me dépouiller comme ça. Attends.
Et sans même prendre sa casquette, il s'élança dehors.
Où cours-tu comme ça, notre maître?
Demanda Fétinia, contre qui il s'était heurté sur le perron.
Monsieur Notre-Dame, laisse-moi passer, hurla Hakim.
Et voyant la charrette de Naoum qu'on n'avait pas encore dételée, il sauta dedans, ramassa les rênes, en frappa brutalement le cheval et partit au galop dans la direction du château.
Qu'est-ce que j'ai bien pu faire à Notre-Dame pour qu'elle me traite comme ça?
Se répétait-il tout le long du chemin.
J'oubliais pourtant pas, il me semble.
Cependant, il fouillait son cheval à tour de bras. Les passants s'écartaient prudemment et le suivaient longtemps d'un regard étonné. En un quart d'heure, il arriva au château, sauta de voiture juste devant le perron et se précipita dans l'antichambre.
« Qu'est-ce qu'il te faut ? »
bougonna un valet que cette brusque rentrée tira d'un doux sommeil.
« Il faut que je voie madame, tout de suite !» déclara Hakim d'une voix impérative.
« C'était qu'il arrivait un malheur ?» s'enquit le valet, très surpris.
« Il n'est rien arrivé du tout, mais je veux voir madame sur l'heure !»«
De quoi ?» glapit le valet éberlué.
L'apostrophe fit sur Hakim l'effet d'une douche froide. Il prit conscience du lieu où il se trouvait.
« Bon, ayez la bonté, Piotr Iglavitch, dit-il avec un profond salut, de faire savoir à madame qu'Hakim demande la permission de la voir. »«
Bon, c'est bien, on y va. Mais t'avises pas de bouger, hein, t'as bu un coup de ton, hein, le vieux, »
grommela le valet en s'éloignant. Hakim baissa la tête. Depuis qu'il avait mis le pied dans l'antichambre, sa crânerie l'abandonnait peu à peu. Quand on lui annonça l'arrivée d'Hakim, Elisabeth Prochorovna ressentit aussitôt quelque confusion et manda sur le champ Kirillovna.
« Je ne puis pas le recevoir, » s'écria-t-elle dès que celle-ci parut. « Non, non, c'est impossible. Je t'avais bien dit qu'il viendrait faire des plaintes. Je t'avais bien dit, » répéta-t-elle avec aigreur. « Mais ma chère dame, qui vous force de le recevoir ?» rétorqua Kirillovna sans s'émouvoir le moins du monde. « Vous avez vraiment de la bonté de reste.
Mais comment faire ?
Si vous le permettez, je le recevrai à votre place. »
Elisabeth Prochorovna releva la tête.
« Ah ben c'est cela, ma bonne. Va le trouver, je t'en supplie. Dis-lui que j'ai trouvé nécessaire, mais que je le dédommagerai. Enfin, tu sauras bien quoi lui dire. Vas-y, fais-moi cette grâce. »
« J'y vais, ne vous faites pas de mauvais sang. »«
Ma chère dame, » répondit la camériste qui s'en alla aussitôt en faisant crier ses souliers.